chapitre 14, à partir du verset 32. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 32. Il nous est dit de Jésus et de ses disciples, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je propose de reprendre la lecture à partir du verset 41. Le verset 41, il revint pour la troisième fois et leur dit, « Maintenant, dormez et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Voilà, ce passage de l'Écriture nous rapporte donc des événements qui se sont produits après la dernière Pâque, partagée par le Seigneur avec ses disciples, après l'institution de la scène également. Le dernier repas a été marqué par plusieurs événements marquants, par des paroles particulières, troublantes, à la suite desquelles le Seigneur a laissé à ses disciples des instructions et des paroles de consolation. Puis, le Seigneur a fait monter vers le Père cette remarquable prière que l'on appelle la prière sacerdotale, au cours de laquelle il va prier pour que Dieu le glorifie auprès de lui-même, de la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. Le Seigneur va prier pour les apôtres, le Seigneur va prier pour tous ceux qui lui appartiendront. Retenons cette prière sacerdotale, elle est importante. Et après avoir chanté des cantiques, sans doute les psaumes 115 à 118, le Seigneur va entraîner ses disciples avec lui, ils franchiront le torrent de Cédron et se rendront à la montagne des Oliviers. Des textes nous laissent supposer que pendant cette dernière semaine de son ministère, le Seigneur ne dormait pas à Jérusalem, mais dormait au Mont des Oliviers, voire à Béthanie, en raison de l'atmosphère tendue qui existait à Jérusalem, les chefs des Juifs ayant formé le dessein de le mettre à mort. Parvenu à un lieu que lui et ses disciples connaissaient bien pour s'y rendre d'habitude, pour prier, le jardin de Gethsémané, nous avons lu que le Seigneur va prendre avec lui trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, va faire quelques pas en avant. Un autre évangéliste nous parle du parcours de la distance d'environ un jet de Pierre et va tout d'abord s'agenouiller, se jeter sur sa face et formuler la prière remarquable qui nous est rapportée ici. Sa sueur deviendra semblable à des grumeaux de sang, alors qu'il éprouve des frayeurs et des angoisses. Il y a des textes de l'Écriture qui nous révèlent des réalités si redoutables que l'on hésite à en parler, à enseigner. Pourtant, les événements qui se produisent à Gethsémané sont des événements d'une importance capitale dans l'œuvre de notre Seigneur, et il nous convient de considérer avec attention ce qui s'est produit dans ce jardin de Gethsémané. Je propose de réfléchir en premier lieu à la prière que le Seigneur formule dans le jardin de Gethsémané. Au verset 35, nous avons lu que le Seigneur prie pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Au verset 36, nous lisons que le Seigneur a dit « Toutes choses te sont possibles, Père, éloigne de moi cette coupe. Alors cette prière a de quoi nous surprendre, elle a de quoi nous choquer. C'est au point que certains ont cru et ont dit que le Seigneur ne demandait pas ici au Père d'éloigner de lui la croix, mais d'éloigner de lui la perspective d'une mort physique imminente. Alors, je ne vais pas passer en revue les raisons qui ont conduit ces personnes à penser ceci. La principale d'entre elles est qu'il leur semble inconcevable que le Seigneur, l'agneau de Dieu, prédestiné dès avant la fondation du monde, au moment d'accomplir ce pourquoi il était venu, demande au Père d'éloigner de lui la croix. À Gethsémané, pourtant, le Seigneur a réellement demandé à son Père que, s'il était possible, la croix s'éloigne de lui, tout en demandant que la volonté du Père s'accomplisse et non la sienne. Au verset 35, l'heure dont il est question lorsque le Seigneur prie pour que cette heure s'éloigne de lui est l'heure dont il est question dans l'évangile de Jean lorsque le Seigneur voit arriver la croix et va dire « l'heure est venue ». Et encore, lorsque troublé en son esprit, déjà là, au chapitre 12 de l'évangile de Jean, lorsque quelques Grecs manifestent le désir de le voir, le Seigneur va dire « mais Seigneur, que demander, Père, que de demander d'éloigner de moi cette heure ?» Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, il s'agit bien de la croix. Au verset 36, lorsque le Seigneur prie pour que le Père éloigne de lui cette coupe, une fois encore, il s'agit bien de la croix. Dans l'évangile de Jean, lorsque le Seigneur se relèvera de sa lutte au jardin de Gethsémané, il dira aux disciples « Ne boirai-je pas la coupe que le Père me donne à boire ?» Il s'agit de la coupe de la croix. Alors pourquoi l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, demande-t-il ici au Père, s'il était possible, d'éloigner de lui cette coupe? La réponse est que Jésus-Christ, qui est le Saint et le Juste, allait être chargé de nos péchés, et que l'horreur que lui inspirait le mal et le juste châtiment du mal, à lui qui était parfaitement saint et pur, l'apportait à formuler cette prière. Nous savons que le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons l'Écriture, tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament doit être éclairé par la révélation qui nous est faite dans le Nouveau Testament. Mais croyons aussi que l'Ancien Testament éclaire le Nouveau. Et tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes concerne avant tout le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il venait accomplir pour nous. Ainsi, au cœur de la loi de Moïse se trouvent les sacrifices. Les sacrifices que l'on offrait chaque jour dans le tabernacle, puis dans le temple, sacrifices sans lesquels il était impossible pour l'Israélite de s'approcher de Dieu. Or, pour que ces sacrifices soient agréés de Dieu, il fallait plusieurs choses. Entre autres, il fallait la présence d'un sacrificateur propre à s'approcher de Dieu. Sacrificateur qui représenterait le pécheur et qui officierait pour lui, pour le pécheur ou pour le peuple, en offrant le sang d'un animal sacrifié sur l'autel. Et il fallait aussi qu'une victime sans défaut, propre à être agréée de Dieu, soit offerte pour expier le péché de l'Israélite, ou le péché du peuple. Or, si nous considérons, nous avons parlé de cette prière sacerdotale. Voyez, cette prière que Dieu va offrir immédiatement après le repas de Pâques, il l'offre pour que le Père le glorifie, il l'offre pour ses disciples, il l'offre pour l'Église à venir, il l'offre sans doute debout, les yeux levés vers le ciel, l'Écriture le précise, c'est une prière pleine de force, une intercession glorieuse, majestueuse. Comme son nom l'indique, la prière sacerdotale, c'est la prière que le Seigneur formule en tant que sacrificateur. Il nous représente. Il intercède pour nous, il nous porte devant son Père. Et nous le considérons ce soir quelques moments plus tard, il a franchi le torrent du Cédron, et il est saisi d'angoisse, il est prostré, le visage contre terre. Il verse d'abondantes larmes, avec de grands cris et avec larmes, est-il écrit, sa sueur est devenue semblable à des grumeaux de sang. Cette prière, il l'offre à son Père parce que il prend conscience comme jamais auparavant, quel mystère, qu'il est aussi le sacrifice. C'est un grand mystère. Parce que, quoique ayant toujours su, bien sûr, quelle était la nature de la mission qu'il venait effectuer, la volonté de son Père, comme jamais, au jardin de Gethsémané, le Seigneur va avoir conscience de ce qu'implique le fait de voir nos péchés lui être imputés. Nos péchés lui être imputés, cela veut dire que nos péchés vont être mis à son compte, qu'ils vont être comptés à son compte, de la sorte qu'il va être traité par le Père comme si lui-même les avait commis. Il est écrit que lui qui n'a pas connu le péché, il a été fait péché pour nous. Et encore que le Seigneur a été fait malédiction. Et encore, c'est le prophète Ésaïe, que le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si nous considérons à nouveau les sacrifices de l'Ancienne Alliance, particulièrement les sacrifices sanglants, tenez, ce bouc qui était offert, le grand jour des expiations, nous souvenons qu'il y avait un deuxième bouc. Et lorsque ce deuxième bouc était, lui, lâché au désert, pour parler de l'efficacité du sacrifice, pour éloigner de nous le châtiment de nos transgressions, l'Écriture précise qu'avant d'être lâché, bien, ce bouc devait être pris par le souverain sacrificateur qui lui imposait les mains et confessait les péchés de tout le peuple. Et encore, dans d'autres sacrifices sanglants, notamment je pense au sacrifice sanglant offert pour l'expiation, le pécheur, parfois les anciens, quand le péché avait été commis par toute l'assemblée, devait imposer les mains, ou la main, sur la tête de l'animal. Alors, vu du côté des hommes, des Israélites, bien sûr, cette imposition des mains nous parle de la foi, qui permet de s'approprier le pardon acquis par le sacrifice, mais cette imposition des mains nous parle également d'un transfert, d'une transmission. Les péchés du peuple étaient, pour ainsi dire, transmis à l'animal innocent et sans tache, qui, immédiatement après, était offert. Dans le cas du sacrifice pour l'expiation, l'animal était égorgé et son sang était offert sur l'autel. Le Seigneur a été chargé de nos péchés. C'est lui dont nous parle cette imposition des mains, cette transmission du péché, l'imputation de nos péchés. Certains disent que le Seigneur Jésus-Christ a été chargé de nos péchés toute sa vie durant. Voilà. Il a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Je ne crois pas cependant que le Seigneur ait été chargé de nos péchés toute sa vie durant. Vous voyez, il y a ces textes qui nous parlent de la manière dont il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Il y a ce témoignage rendu à trois reprises audiblement par le Père qui exprime aux oreilles de ceux qui sont présents son approbation de son Fils. Hein, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Non, pendant sa vie, pendant son ministère, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ n'était pas chargé de la colère de son Père. Alors, quand est-ce que Jésus-Christ est chargé de nos péchés? Quand s'est-il chargé de nos péchés? Quand ceci lui ont-ils été imputés? À la croix, bien sûr. Il a, écrira Pierre, porté nos péchés en son corps sur le bois. Mais considérons ce qui se produit à Gethsémané. Vous voyez, lorsque le Seigneur paraît dans le monde, on se souvient de ces bergers qui passent dans les champs les veilles de la nuit, et de cet ange qui leur apporte cette bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur dans la ville de David. Nous nous souvenons de cette précision que ce que une multitude de l'armée céleste va se joindre à l'ange, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, aux hommes qu'il agrée, une multitude de l'armée céleste. Et même lors de la tentation dans le désert, après que le diable s'est éloigné de lui, nous lisons que les anges de Dieu le servaient. À Gethsémané, non pas une multitude d'anges, il n'en a plus qu'un. Selon que Luc écrit qu'un ange de Dieu lui apparaît pour le fortifier. Après la prière de Gethsémané, à peine Jésus se relève-t-il, nous l'avons lu, que aussitôt, Judas s'approche. Il parlait encore. Que Judas s'approche avec la corde nombreuse, il s'agissait d'une corde de 600 hommes. Voyez, l'animal, aussitôt les mains imposées, devait être égorgé. À plusieurs reprises, dans les évangiles, nous nous rendons compte que, pendant son ministère terrestre, malgré toute l'opposition que le Seigneur a rencontrée, il y a une protection qui l'environnait. Plusieurs reprises, il nous est dit que, alors que ses adversaires s'approchaient de lui, parfois pour le mettre à mort, le Seigneur passe au milieu d'eux et s'en va. Personne ne put lui faire du mal parce que son heure n'était pas encore venue. Immédiatement après la prière de Gethsémané, le Seigneur est saisi, lié par les huissiers, mené à Anne, où il sera frappé par un huissier. Il sera transféré ensuite chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Il sera là condamné à mort. Il recevra chez Caïphe des coups de poing, des soufflets, des crachats. Le matin, le maître est livré à Pilate, qui le fait battre de verges, mettant ses chairs à vif, et livré à des soldats qui lui frapperont la tête avec un roseau. Puis, ce sera la croix. Les mains et les pieds pexés, la honte, la moquerie et les insultes. La Bible est sobre sur ce point, mais l'Écriture nous révèle qu'à deux reprises, avant et pendant le repas, Satan entre dans Judas. D'abord pour lui inspirer le destin de livrer le maître, puis ensuite pour le pousser à le mettre à exécution. Ensuite, lorsque le Seigneur est arrêté dans le jardin de Gethsémané, il est précisé qu'il s'agit de l'heure de ses adversaires et la puissance des ténèbres. Comment imaginer que le diable, qu'il a tenté dans le désert et dont il nous est dit qu'il s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable, alors que le Seigneur meurt sur la croix, ne s'approche pas du maître pour lui décocher ses 13 enflammés. Jusqu'au moment, ça fait partie, voyez, du châtiment que le Seigneur subit lorsque nos péchés lui sont imputés. Jusqu'à ce qu'il devienne manifeste que le Père lui-même s'est détourné de lui. Nous entendrons le Maître crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelqu'un dira « Mais le Seigneur n'était-il pas conscient ?» À tout moment de sa mission, sur la croix y compris, qu'il accomplissait la volonté du Père. Nombre de nous sommes au Seigneur, sommes chrétiens. Nous souvenons de ce moment où nous avons compris que la justice de Dieu nous était imputée par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous avions compris que cette justice n'était pas la nôtre. Elle ne consistait pas en nos mérites, nos œuvres, elle ne venait pas de nous. C'était la justice d'un autre. Quelle paix, quel soulagement. Sur la croix et pendant l'expiation, le Seigneur a vécu l'inverse. Nos péchés lui ont été imputés. Et le Seigneur a connu le jugement de Dieu qu'ont attiré sur lui nos péchés. Et c'est pourquoi, à Gethsémané, il prie que s'il est possible, cette coupe s'éloigne de lui. À Gethsémané, il était nécessaire que le Seigneur comprenne pleinement, un grand mystère, il était nécessaire que le Seigneur comprenne pleinement quelle serait la conséquence de son acceptation de la mission confiée par son Père, et comme jamais auparavant, qu'il prenne conscience de ce que son obéissance entraînerait. Il était nécessaire qu'il accepte de boire cette coupe en pleine connaissance de cause, et béni soit Dieu, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. La coupe que mon Père m'a donnée à boire, ne la boirai-je pas. Pourrions terminer par une double application. Si quelqu'un n'appartenait pas au Seigneur, peut-être dites-vous ce soir, mais le Seigneur a subi le jugement de Dieu pendant quelques heures, est-ce suffisant pour me délivrer de l'éternité passée à subir le jugement de Dieu? Car si nous venions à basculer dans l'éternité, sans être au Seigneur, alors notre destinée consistera dans ce jugement éternel. Mais si quelqu'un se demandait cette œuvre de Christ, ces heures passées sur la croix, ces moments passés à partir du moment de Gethsémané, sont-ils suffisants pour me délivrer de la colère à venir ? Recevons le témoignage de l'Écriture. L'Écriture affirme que cette œuvre est parfaitement suffisante pour que nous recevions ce soir un plein pardon, que nos péchés soient purifiés, que Jésus-Christ, par son sang, a été destiné à devenir pour nous une victime qui nous rend Dieu propice, que le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert pour nous, peut purifier ce soir nos consciences des œuvres mortes, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, que nous servions le Dieu vivant. Un prédicateur a dit, les souffrances finies sur le plan de la durée, souffrances finies du Dieu infini, Christ est le Dieu infini, manifesté en chair. Souffrances finies du Dieu infini sont suffisantes pour nous délivrer, nous, pécheurs finis, des souffrances infinies de la condamnation éternelle. Recevons ce soir, par la foi, le don de la vie éternelle, en Jésus-Christ. Et puis si nous sommes au Seigneur, nos luttes et nos combats n'ont rien de comparable et ne peuvent rien avoir de comparable avec celles que le Seigneur a livrées à Gethsémané. Pourtant, il y aura assurément dans notre vie des heures où, ayant connu la volonté de Dieu, nous conviendra nous aussi, dans des combats que nous livrerons, de demander à Dieu sa grâce pour que sa volonté se fasse et non la nôtre. Job, cet homme remarquable, avait pu rendre ce témoignage « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche ». Il y a parfois en nous de grands combats qui se livrent. Si toutefois c'était le cas, bien-aimés, approchons-nous du Seigneur pour être fortifiés. Ce n'est pas un ange du ciel, c'est le Seigneur lui-même qui vient à notre secours. Il nous est dit que, ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Que sa grâce soit sur vous, que sa bénédiction soit sur son peuple. Pourrions-nous recueillir quelques instants et prier.